Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
La reconnaissance faciale, une technologie promue en Chine, mais dont l'Europe ne veut pas. Nous verrons qu'au Royaume-Uni, elle séduit pourtant de nombreux commerces. Il va sûrement quitter son poste de chancelier d'Allemagne après les élections. Le social-démocrate Olaf Scholz n'a pas su convaincre. Enfin, le Groenland, face au réchauffement climatique, le territoire s'adapte dans l'urgence. Voilà le programme dans Accent d'Europe. Bonjour à tous. De la reconnaissance faciale, on ne connaît souvent que la face la plus sombre, celle qui permet de ficher et de traquer les individus. Des régimes comme celui de la Chine en font bon usage, mais l'Europe veut l'interdire. Hors de l'UE, le Royaume-Uni voit son utilisation grimper en flèche. Ce sont les petits commerces, déjà très équipés en télésurveillance, qui en font usage pour repérer les possibles voleurs à l'étalage. Un recours qui inquiète tous les défenseurs du droit et de la liberté individuelle. Reportage à Londres et Weymouth, signé Marie Billon.
Dave est assis dans l'arrière-boutique de son magasin d'alimentation générale près de la gare de Weymouth. Il regarde l'enregistrement, qui date du mois de décembre, d'une femme en train de prendre des bouteilles d'alcool pour les mettre dans les poches de sa parka. Un superviseur l'a vu et est allé lui demander des comptes. Mais cela crée souvent des conflits et des tensions entre l'employé et le ou la suspecte. C'est justement pour éviter ce genre de choses que Dave a installé FaceWatch, un logiciel de reconnaissance faciale, en juin 2023.
Avant FaceWatch, nous avions des vols 2-3 fois par jour, parfois plus. Il s'agissait souvent des mêmes personnes. Maintenant, nous en sommes à 2 ou 3 vols par semaine. Nous recevons des alertes de FaceWatch. Lorsque des voleurs qu'on a déjà repérés essaient encore d'entrer dans notre magasin, ils sont refoulés à la porte. Donc très souvent, cela évite qu'il y ait vol.
Dave montre la caméra de surveillance à l'entrée de son magasin, la seule de ses 5 caméras qui est liée au logiciel FaceWatch. Ces images sont traitées par l'intelligence artificielle.
Voici donc la caméra de surveillance avec FaceWatch. Elle surveille toutes les personnes qui franchissent la porte. Elle prend un cliché et le compare avec une base de données. Si la personne correspond à la base de données, nous sommes alertés dans les 6 secondes qui suivent le passage de la porte.
Cette base de données est créée par le magasin de Dave. Elle repère notamment les personnes qui ont été prises sur le fait pour que quand elles reviennent dans la boutique, Dave et ses employés puissent les stopper. Mais d'autres commerçants des alentours qui utilisent le même logiciel, FaceWatch, remplissent aussi leur propre base de données.
My name is Guy Lehman. I am a spokesperson for the British Retail Consortium.
Selon Guy Lehman, porte-parole du consortium des commerçants britanniques, une organisation qui représente plus de 200 enseignes, l'équivalent de 2 milliards d'euros sont dépensés chaque année par les commerçants pour se prémunir de crimes. Ils prennent les choses en main parce qu'ils n'ont plus confiance en la police, dit Guy Lehman.
60% des détaillants que nous avons interrogés ont déclaré que la réponse de la police était mauvaise ou très mauvaise. La réponse policière est donc l'une des choses à améliorer. Je pense qu'à l'heure actuelle, les voleurs à l'étalage ont l'impression qu'ils peuvent s'en tirer sans se faire prendre. Les commerçants signalent les incidents. Ils pourraient et devraient le faire davantage. Mais en fin de compte, ils ne font plus confiance à la police pour intervenir, donc ils ne prennent même plus la peine de contacter les autorités.
Guy Lehman parle d'une épidémie de vol à l'étalage. Tout le monde n'aime pas cette expression dramatisante.
My name is Chris Jones. I'm the director of State Watch.
Chris Jones est le chef exécutif de l'ONG pour les libertés publiques State Watch. S'il y a tant de vols, explique-t-il, c'est parce que le tissu social se délite depuis des années, notamment à cause de décisions politiques qui ne parviennent pas à endiguer les inégalités et la pauvreté. Il estime aussi que ce genre de langage peut être dangereux, car il peut pousser les Britanniques à sacrifier certains de leurs droits au nom de la sécurité.
Il y a plusieurs types de mesures de sécurité que vous pouvez installer pour donner un sentiment de sécurité. Regardez la vidéosurveillance qui est la version antérieure de la reconnaissance faciale. Cette ville est couverte de caméras de surveillance. Nous sommes l'un des pays les plus surveillés au monde. Il n'y a toujours pas de preuve que la vidéosurveillance ait un effet sur la criminalité. Alors je ne vois pas pourquoi une simple amélioration de ce type de technologie ferait la différence. C'est le genre d'expansion privée d'un système de surveillance qui ne devrait pas être autorisé.
du haut de la terrasse de son immeuble d'entreprise, Chris Jones surplombe Fleet Street, l'une des rues principales de la cité de Londres, le quartier financier. Il sait que les caméras sont partout, dans les rues, dans les commerces. Ce qui l'inquiète surtout, c'est le manque de régulation. Il pense au système de partage des informations qu'utilisent par exemple Dave à Weymouth et les commerçants des alentours. Qui sont-ils pour punir une personne sans qu'elle ait été jugée et déclarée coupable? Même si les informations concernant un suspect ne sont pas retenues pour toujours dans le système de Dave, elles restent pour une année. Et à chaque fois qu'un prétendu suspect entre dans un magasin, il peut être soupçonné d'être là pour voler.
C'est très dangereux pour une société de voir les moyens de sécurité privée se multiplier à ce point, car il est censé y avoir un seul ensemble de lois pour tous appliquées de manière égale par le système de justice pénale. Cela ne fonctionne pas forcément dans la pratique, mais plus la sécurité est confiée à des entreprises privées, moins il y a de chances que ces lois soient respectées. Donc on s'éloigne de plus en plus de l'idéal d'une société fondée sur l'état de droit.
Normalement, les commerces doivent préciser s'ils utilisent des caméras de surveillance et si la reconnaissance faciale est utilisée. Mais selon les ONG comme Statewatch, tous ne jouent pas le jeu et ne préviennent pas les clients qui ne peuvent alors pas donner leur consentement. Consentement qui se fait de facto, simplement en entrant dans le magasin.
Bonjour Juliette Garbrand.
Bonjour.
La législation européenne sur l'intelligence artificielle commence à entrer en vigueur. Son application va s'étendre progressivement jusqu'en 2026. On sait que la reconnaissance faciale devrait être largement interdite. Est-ce que l'usage de FaceWatch, comme on l'a vu dans ce reportage britannique, pourrait être autorisé dans un pays de l'UE?
Non, FaceWatch et les logiciels similaires sont interdits dans l'espace public, dans les lieux qui accueillent du public, comme les magasins, à de rares exceptions près. Il est interdit aussi de surveiller en direct l'entrée d'un bâtiment ou d'un événement. Les caméras de surveillance, elles sont autorisées. Ce qui est interdit, c'est la reconnaissance faciale en direct, c'est-à-dire le fait de connecter des caméras de surveillance à une base de données d'images qui permet d'identifier les individus. D'ailleurs, il est aussi interdit de récupérer des photos à grande échelle et de façon indifférenciée sur Internet pour constituer des bases de données de plusieurs milliards d'images qui servent à nourrir les outils de reconnaissance faciale. Il y a des exceptions, on le disait, qui concernent son usage par la police pour la recherche d'un enfant disparu, la localisation d'un suspect dans des affaires de terrorisme, de pédopornographie ou de trafic d'êtres humains, ou encore la surveillance temporaire d'un lieu particulièrement sensible.
Et dans les aéroports, par exemple, comment ça marche ?
Alors, quand vous passez un contrôle à l'aéroport, la reconnaissance faciale vérifie que votre visage correspond à votre passeport. Et c'est un peu le même principe quand vous déverrouillez votre téléphone. C'est un usage d'authentification, ça ne révèle pas votre identité. Et c'est tout à fait différent de ce qui pourrait s'assimiler à de la surveillance de masse. Par exemple, vous participez à un rassemblement, à une manifestation, il y a des caméras reliées à des logiciels de reconnaissance faciale et donc les autorités ont votre identité et celle de tous les participants en temps réel. Il n'y a plus aucun anonymat dans l'espace public, ce qui limite considérablement le respect de la vie privée.
Et il y a eu beaucoup de débats sur l'utilisation de ce type de surveillance à Paris pendant les JO, Juliette.
Oui, c'était en effet la première fois que l'intelligence artificielle était utilisée à aussi grande échelle pour de la surveillance en France. Mais il ne s'agissait pas de la reconnaissance faciale. Les caméras détectaient des mouvements de foule ou la présence d'individus dans des espaces interdits, par exemple, sans identification en direct.
Et au-delà de la seule reconnaissance faciale, à qui s'applique ce texte européen sur l'intelligence artificielle ?
Eh bien, il s'applique à tous les acteurs de la chaîne de l'intelligence artificielle, de la conception à la distribution, qui doivent se conformer à la loi, qu'ils se trouvent ou non sur les territoires européens. Et ça, c'est un sacré défi pour la Commission européenne.
Merci Juliette Garbrand. Les Allemands se rendent aux urnes ce dimanche pour des élections anticipées provoquées par l'éclatement de la coalition Feu tricolore emmenée par le social-démocrate Olaf Scholz. Ce dernier est au plus bas dans les sondages, largement devancé par l'opposition chrétienne-démocrate, mais aussi par le parti d'extrême droite AfD, crédité de 20% d'intention de vote, ce qui en ferait la deuxième force politique du pays. Bonjour Romain Le Maresquier.
Bonjour.
Vous êtes êtes journaliste au service international, Olaf Scholz ne pourra sûrement pas se maintenir à son poste de chancelier.
Oui, ces élections pourraient bien marquer la fin de la carrière politique d'Olaf Scholz. À 66 ans, le chancelier sortant pourrait bien tirer sa révérence si sa formation, le SPD, subit une défaite historique, ce que prédisent déjà les sondages. Il faut dire que la coalition feu tricolore qu'il dirigeait avec les Verts et le Parti libéral était plus ou moins vouée à l'échec, surtout dans un contexte de crise énergétique et économique. Étienne Dubslaff, docteur en civilisation allemande et en histoire contemporaine.
C'était une coalition un peu contre nature, au sens où il y a bien certains points communs, notamment dans la politique sociétale, où ce sont trois partis plutôt libéraux, somme toute. Par exemple, tous trois partis favorables au mariage gay, trois partis qui étaient aussi plus ou moins favorables, par exemple, à la libéralisation du cannabis. C'est anecdotique, mais néanmoins, ça joue quand même un rôle. En revanche, il y a toujours eu de graves dissensions, notamment entre les Verts et les libéraux, autour de la question économique et financière.
Et Romain, ce sont justement ces questions d'ordre économique et financière qui ont fait imploser la coalition.
Oui, les sociodémocrates et les Verts souhaitaient faire sauter le verrou de la dette publique, un thème tabou en Allemagne. Mais mettre fin à ce verrou était indispensable, selon Olaf Scholz, pour relancer l'économie allemande, qui pourrait connaître une troisième année de récession en 2025. Un sujet dont ne voulait pas entendre parler Christian Lindner, le ministre des Finances, également chef du Parti libéral.
Et c'est ce qui a fait basculer la situation. Mais on ne peut pas rendre non plus Olaf Scholz responsable de tous les maux de l'Allemagne.
Non, il faut dire que Olaf Scholz avait hérité d'une situation particulière. Marie Krapata, chercheuse au CERFA, le comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI.
Avant lui, Angela Merkel a été au pouvoir pendant 16 ans et un certain nombre de décisions ont été prises qui finalement ont fragilisé l'Allemagne, puisqu'en effet, la dépendance par rapport à la Russie sur le plan énergétique, c'était bien avant Olaf Scholz. Sous Angela Merkel aussi, il y a eu un sous-investissement dans l'armée allemande. Alors effectivement, les sociodémocrates ont aussi été au gouvernement sous Angela Merkel, mais il est un peu trop simple de dire que la faute, finalement, est celle d'Olaf Scholz.
Et donc, à la fin de cette coalition feu tricolore, Olaf Scholz décide de prendre la tête de la liste du SPD pour ses prochaines élections.
Et oui, mais le problème, c'est que les thèmes qui lui sont chers ne sont pas les thèmes qui dominent la campagne. L'Allemagne a besoin de relancer son économie, d'investir dans des secteurs clés, selon lui. Mais ce sont d'autres questions qui dominent les débats. Marie Krapata.
Le thème de l'immigration est aujourd'hui un des thèmes phares de cette campagne électorale, qui plus est après un certain nombre d'attaques au couteau, mais également de différents attentats qu'il y a pu y avoir précédemment. Ce sujet de l'immigration et ce sujet de la sécurité aujourd'hui dominent cette campagne électorale, même si, évidemment, la question de l'économie, de la compétitivité joue un rôle.
L'ancien maire de Hambourg devrait donc quitter la scène politique prochainement, laissant derrière lui un parti social-démocrate qui pourrait bien mettre des années à se remettre d'un score qui s'annonce comme le plus mauvais de son histoire.
Merci Romain Le Maresquier. On n'a jamais autant parlé du Groenland depuis que Donald Trump a fait part de ses visées expansionnistes sur ce territoire arctique. Mais si cette région autonome du Danemark intéresse tant, c'est aussi parce que la fonte des glaciers, qui a doublé ces 20 dernières années, pourrait dégager de nouvelles routes commerciales. Le réchauffement climatique est aussi soudain que violent et contraint la population à une adaptation climatique tambour battant, c'est le reportage sur place de notre correspondante Ottilia Ferret.
Au Groenland, les glaciers fondent 6 fois plus vite aujourd'hui que dans les années 80. Par heure, ce sont 30 millions de tonnes de glace qui se liquéfient. Et ces glaciers, on les appelle les baromètres du changement climatique. Un baromètre dans le rouge comme jamais auparavant, comme en témoigne Penelope Ruthau, glaciologue et climatologue à l'Institut de recherche scientifique du Danemark et du Groenland.
Nous disposons désormais de plus de 3 décennies de mesures, ce qui nous permet de réellement observer des tendances à long terme de la température de l'air. Tout indique un réchauffement. Nous n'avons pas connu d'hiver avec 30 jours de froid consécutifs depuis 2000.
Dans cette partie du monde, les températures augmentent 4 fois plus vite que sur le reste de la planète. Sur une carte, Pénélope pointe du doigt le centre du Groenland, puis différentes autres régions de l'île.
Au lieu de neiger ici, il pleut parfois maintenant, ce qui détruit la banquise. Le glacier d'Ilulissat a énormément reculé, il s'est complètement effondré. On observe aussi beaucoup plus de tempêtes ici. Ce genre de fortes tempêtes qui coupent le courant électrique vont devenir la routine. Et quand l'électricité cesse de fonctionner, ça devient très difficile très vite.
En décembre dernier, les 20 000 habitants de la capitale ont été privés d'électricité pendant près de 10 heures, alors que la température extérieure avoisinait les moins 13 degrés. L'hôpital de Nuuk, les services d'urgence et la police ont dû utiliser des générateurs de secours. Et pour éviter l'hypothermie, des habitants se sont réunis dans un gymnase où une chaufferie avait été installée par la municipalité. Les Inuits sont aux premières loges de tous ces dérèglements qui rendent leur quotidien imprévisible. Kupanuk, Inuit et ingénieur, est né et a grandi dans le sud du Groenland.
Dans mon enfance, on pouvait prédire la météo 4 à 5 jours à l'avance, rien qu'en regardant les nuages. Nous ne pouvons plus faire cela, car le temps change beaucoup plus vite. Notre météo est devenue beaucoup plus instable, et ça commence à avoir des conséquences très graves sur nos vies.
À Kanak, dans le nord, c'est assez marquant. On observe clairement que la banquise se forme de plus en plus tard. Ça impacte le mode de vie des locaux qui ne peuvent plus chasser ou utiliser leurs méthodes traditionnelles. Ils doivent trouver des solutions et s'adapter. Au lieu d'utiliser des chiens de traîneau sur la glace, on voit beaucoup de gens utiliser des kayaks. Certaines années, on a beaucoup de glace qui se détache des glaciers et les petits morceaux dans l'eau peuvent constituer un danger énorme pour les bateaux. C'est très imprévisible. Les gens dépendent des fjords pour leur survie et ça complique beaucoup la vie.
Erik Kjelsen est consultant et s'occupe de développer le sud du Groenland. Aujourd'hui, il propose même aux chasseurs locaux de devenir guide pour les touristes américains en quête de chasse aux trophées sur ces terres gelées. Il raconte que dans son enfance, la glace était stable tout l'hiver, ce qui permettait aux chasseurs d'attraper les phoques sans risque. Mais les choses ont drastiquement changé.
Ici, dans le sud du Groenland, on ne peut plus chasser sur la glace parce que la banquise s'est brisée en petits morceaux. Ici, on l'appelle de la glace pancake. On a aussi beaucoup plus d'icebergs. Dans le sud, on dépend beaucoup de la chasse aux phoques et lorsque la banquise ne se forme pas, ça a de grosses conséquences sur leurs revenus.
La chasse aux phoques est une tradition inuite ancestrale, mais les Groenlandais commercialisent aussi l'animal pour sa fourrure, sa graisse et sa viande. Mais avec la banquise qui se raréfie, beaucoup de chasseurs ont dû se reconvertir en pêcheurs. Sauf que cette activité-là aussi comporte de nouveaux challenges.
Les courants ont beaucoup changé, ce qui fait bouger les glaces plus vite. Donc les pêcheurs peuvent rapidement être pris en étau. Donc oui, ça peut être dangereux.
Si la tendance actuelle de réchauffement persiste, les scientifiques estiment que la fonte totale du Groenland et de l'Antarctique pourrait entraîner une élévation de 12 à 20 mètres du niveau des océans sur plusieurs millénaires. Des océans qui ne cessent de se réchauffer. Sous la surface aussi, Erik a noté des changements.
De nouvelles espèces de poissons sont arrivées. Mais ceux qui vivent dans les eaux froides disparaissent.
Au Groenland, le poisson, le phoque ou la viande de baleine sont généralement séchés en juin et en juillet, mais la saison a maintenant été décalée.
Les chasseurs de baleines commencent à sécher leur viande seulement fin août maintenant, car ce n'est qu'à partir de là qu'il fait plus froid et qu'il y a moins de mouches.
En se réchauffant, les océans ont de plus en plus de mal à absorber le CO2. La calotte glaciaire emprisonne elle aussi en son sein des tonnes de gaz à effet de serre, ainsi que du méthane 25 fois plus puissant. Lorsqu'elles fondent, ces gaz sont relâchés dans l'air. Si les Inuits ont appris à s'adapter aux conséquences sur leur terre, ils rappellent que la fonte des glaces au Groenland a des impacts dans le monde entier.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Théo Raison. Retrouvez-nous en podcast sur notre site, sur l'application Cure Radio et les réseaux sociaux. À demain.